Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
La loi du service. Dites-moi la loi du service. 1 Pierre chapitre 4 au verset 10 nous dit chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qu'il l'utilise pour le bien des autres et le mette à leur service comme il convient à de bons gérants de la grâce infiniment variée de Dieu. Amen. Pour gagner de l'argent, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne et l'un des bons moyens d'en gagner est de servir les autres. Sers les autres et les autres te rendront en retour. Et la plupart du temps, ils te rendront sous forme d'argent. Si tu veux avoir tout ce que tu veux dans la vie, aide les autres à avoir ce qu'ils veulent dans la vie et en retour, ils te donneront de l'argent. Amen. Et cette loi est une loi extrêmement puissante parce que tout simplement, cette loi, quand tu l'appliques dans ta vie, en général, elle a un impact direct sur tes finances. Servir les autres. Dis-moi, servir les autres. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit à ses disciples, le monde vous tyrannise en vous faisant croire que dominer les autres, c'est en les écrasant. Moi, je vous dis que celui qui veut être le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert les autres. C'est celui qui est esclave. Ce sont les esclaves dans le monde qui sont les plus riches. Ce sont ceux qui servent les autres qui sont les plus riches dans le monde. Tu n'as pas remarqué? Pendant que toi, tu dors le matin jusqu'à 11h, Cristiano Ronaldo, lui, à 5h du matin, il est debout en train de taper le ballon pour être le meilleur joueur de football au monde. Il transpire. Entre le maître et l'esclave, qui transpire dans la maison? C'est l'esclave. Le maître, lui, il est assis sur la table, sa chaise, il regarde la télé avec son thé, puis il dit à l'esclave, serre-moi, s'il te plaît. Et puis il boit. Entre le maître et l'esclave, qui paye l'autre? C'est le maître qui paye l'esclave, n'est-ce pas, pour le service rendu. Pendant que toi, tu dors jusqu'à 11h, Cristiano Ronaldo tape du ballon. Et ensuite, on t'annonce Real Madrid, PSG. Alors que toi, tu fais ton boulot. Dès qu'il est 15h30, 17h, oh, il faut que je rentre vite à la maison parce qu'il y a PSG, Real Madrid. Et puis tu viens, oh les gars, PSG, Real Madrid, c'est la Ligue des Champions. Tu es là avec ta nourriture, tu manges, tu es content. Celui qui est en train de taper le ballon là, tu sais combien il gagne? Pendant que toi, tu payes Canal+, 40 000 francs tous les mois, parfois tu as même du mal à trouver les 40 000 francs, pour aller regarder un gars qui tape le ballon et qui gagne 1000 fois plus que toi. Il est à ton service. La clé de la réussite dans la vie et de la prospérité, c'est servir les autres. Amen. Aujourd'hui, tu as besoin d'argent. Qui a besoin d'argent? Lève la main. Tu as besoin d'argent. Eh bien, sache que cet argent n'est pas loin de toi. Il est juste dans la poche de la personne qui est assise à côté de toi. Si tu veux cet argent, crée la passerelle. Crée un service et fais venir cet argent dans ta poche. Crée un business. Dis avec moi, crée un business. Si ce business est bon, la personne qui est à côté de toi sera heureuse de te payer. C'est aussi simple que ça. C'est tout. Donc la clé du bonheur dans la vie, c'est de servir les autres. Et je t'assure que l'homme le plus heureux sur la terre, c'est l'entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, c'est ce qu'on appelle le service client. Quand il voit que ses clients sont heureux, il est heureux. Ce n'est pas notre pays, le Gabon, là où le service client laisse à désirer. C'est même eux qui te grondent quand tu rentres dans le magasin. Tu arrives, monsieur, vous voulez quoi? Bonjour. Vous voulez quoi? Mais bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Et elle traîne des pieds. Je dis, oh, mais je suis rentré dans le magasin pour acheter quelque chose et elle me traite comme ça. Aïe, 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 vraiment. La dixième loi, on va aller vite. La dixième loi, c'est la loi de l'avantage compétitif. Dis avec moi l'avantage compétitif. Cette loi est extrêmement importante parce que cette loi consiste à conquérir et fidéliser ses clients, les clients que tu auras demain, à quelque chose que tu as de plus par rapport à tes concurrents. Si demain, par exemple, tu dis, moi, je veux m'investir dans un domaine, je veux créer quelque chose dans un domaine. Mais il y a déjà plein de gens qui font ça. Comment je vais faire pour me différencier? Eh bien, ta différence, c'est le don que Dieu t'a donné. Tu as une manière d'être, de te comporter. Tu as un toucher qui est différent des autres. Amen. Dans le livre de Psaume 139, au verset 13, David dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Chacun d'entre nous ici, nous sommes une créature merveilleuse pour Dieu. Si demain, par exemple, tu crées un salon de coiffure, il y a plein de salons de coiffure, mais qu'est-ce qui va faire que les gens vont toujours venir se coiffer chez toi? Au quartier, il y a des coiffeurs, mais moi, je vais toujours chez le même salon de coiffure. Si je vais chez le maquis, le coiffeur du maquis, ça sent pas bon, il y a les cheveux partout par terre, c'est sale, quand il te coiffe, il te blesse, et après, il te prend un chiffon qui est marron, tu ne sais pas avec quoi il a essuyé ça, et puis il te met ça sur la tête. Parfois, tu as des photos bizarres au mur, il te met la musique à fond, boum, tu es obligé de dire, diminue un peu, c'est comme ça t'agresse, etc. Et puis il est là, il parle fort, tu vois d'autres gars, oh, qui parlent fort. Tu te dis, mon Dieu, jusqu'à quand j'aurai un coiffeur? Jusqu'à ce que je vais trouver un bon coiffeur, c'est propre. C'est juste un peu plus cher. Le coiffeur qui est sale, je paye à peine 500 francs. C'est le coiffeur du quartier. Chez l'autre, je paye 2500 francs, mais le service rendu est excellent. Quand ils ont fini de me coiffer, ils prennent une serviette chaude et puis ils me passent ça sur la tête, tout ça. Après, ils prennent une crème qui sent bon, ils me nettoient doucement, je sens bon. Je suis là, je suis content. Et puis, après, quand ils finissent, ils m'enlèvent le collant qu'ils m'ont mis sur le cou pour ne pas que les cheveux tombent sur ma chemise. Ils l'enlèvent et puis ils font comme ça, monsieur. Tu te sens important. Tu vois, ça c'est un avantage compétitif. Ils prennent soin de leurs clients. Ils m'ont fait ça une fois quand je suis là-bas la première fois. Je ne suis plus jamais parti. Je suis resté là-bas jusqu'à aujourd'hui. Ça me coûte 10 000 francs le mois, me faire coiffer. Et je dis, ça en vaut la peine. Amen. Donc, quel que soit ce que tu feras, toi aussi tu as une différence. Amen. La question qu'il faut te poser, c'est pourquoi les gens viendraient-ils travailler ou acheter chez moi et non chez les autres? Quel avantage ai-je par rapport à mes concurrents? Quelle est la valeur ajoutée du produit ou du service que j'offre? Si demain, par exemple, tu dois te vendre, même en tant qu'employé ou auprès d'une entreprise, il faut toujours te dire qu'est-ce qui va faire la différence par rapport aux autres? Amen. Qu'est-ce qui va faire la différence par rapport aux autres? La onzième loi, c'est la loi du courage. Dis avec moi la loi du courage. Pas besoin de te faire un dessin pour savoir que tu auras besoin de courage pour te lancer dans les affaires ou pour toute autre chose d'ailleurs. On a besoin de courage. Dis avec moi, sois courageux. Je rappelle ce verset de Josué. Durant toute ta vie, Josué 1 au verset 5, durant toute ta vie, personne ne pourra te résister car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai sans secours. Sois courageux car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Il te suffira d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. N'oublie pas, dis avec moi, n'oublie pas. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Si Dieu insiste comme ça, c'est parce que tout simplement, ça ne va pas être facile devant. La vie n'est pas facile. Tu sais comment la vie n'est pas facile? Et il faut être fort dans la vie. Ce sont les gens qui sont forts qui restent debout. Les gens qui sont faibles, on les écrase dans la vie. Et un enfant de Dieu, ce n'est pas un faiblard. Jésus-Christ avait deux côtés. Jésus-Christ est l'homme de la contradiction. Dis avec moi l'homme de la contradiction. Ça, c'est tout un enseignement. Ah, je prie que Dieu un jour m'accorde la grâce de donner cet enseignement-là. Jésus-Christ est l'homme de la contradiction. Parce que Jésus-Christ a deux facettes. Il a la facette agneau de Dieu et il a la facette le lion de la tribu de Judas. L'agneau de Dieu est caractérisé par sa soumission, son humilité, sa simplicité et son service. Le lion, il est caractérisé par la puissance, la domination, le règne. C'est le roi de la jungle. Amen. Jésus-Christ était à la fois très humble et très simple de nature, mais il était aussi fort en même temps. C'est pour cela que dans le livre de Apocalypse, au chapitre 5, on entend l'ange qui dit « Qui est digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sceaux ?» Et puis, personne ne répondit. Et là, Jean dit « Je me mis à pleurer parce que dans tout le ciel, personne ne put ouvrir le livre de vie. » Et l'un des vieillards s'approcha de moi et dit « Pourquoi pleures-tu ? Le lion de la tribu de Judas a vaincu. » Dis-moi, si le vieillard dit à Jean « Le lion de la tribu de Judas a vaincu. » Quand Jean se retourne, qu'est-ce qu'il est censé voir ? Il est censé voir un lion de la tribu de Judas. Et là, la Bible nous dit dans Apocalypse 5 que quand je me retournais, je vis un agneau. On l'a appelé le lion, mais moi je vois un agneau. Il a les deux côtés. Le problème avec les chrétiens dans l'église, c'est qu'ils ont embrassé pour beaucoup un côté. Tu as soit les chrétiens qui sont mous, qui se font avoir dans tout, on les frappe, ils ne répondent pas, etc. Ils sont mous. On les domine. Quand tu les arnaques, ils disent non, Dieu fera. Et tu as les autres chrétiens qui n'ont pas le côté agneau, ils ont juste le côté lion. Ceux-là, ils sont violents, ils sont durs. Pas de tact, ils blessent les autres, ils parlent fort. Quand ils arrivent quelque part, ils se font détester de tout le monde. Alors que Dieu nous demande d'avoir les deux côtés. Dans le domaine des affaires, si tu veux réussir, tu dois d'abord prendre la carrure de lion. Parce que dans les affaires, ce sont les plus forts qui réussissent. Et ensuite, quand Dieu te hisse au sommet, quelle facette va te permettre de rester au sommet? L'agneau, l'humilité, la simplicité avec les autres. Amen. Et pour ça, tu dois être courageux, la loi du courage. Amen. Donc, quel que soit ce à quoi Dieu t'appelle dans la vie, tu vas devoir être fort. Je t'assure, n'oublie jamais ce conseil. Parce que devant, la Bible nous montre que Dieu a dit au peuple juif, vous allez à Canaan, la terre là je vous l'ai donnée. Eux, ils s'attendent à trouver une terre remplie où coule le lait et le miel, etc. Et puis ils arrivent, ils trouvent des géants. Dieu dit, ah mais pensez quoi? Ils pensaient que je vais vous donner ça comme ça? Il y a les géants, il faut vous battre maintenant. Les géants d'Anak. Et ils ont dû se battre pour avoir ce qu'ils voulaient. Et dans la vie, tu vas devoir te battre. Si tu ne te bats pas, les autres vont t'écraser. Amen. Gloire à Dieu. 12e loi, n'oublie jamais celle-là. C'est la loi du risque. Dis avec moi le risque. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 8 nous dit, « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. » Quel que soit ce à quoi Dieu t'appelle, tôt ou tard en chemin, tu devras prendre des risques. Tôt ou tard en chemin, tu devras prendre des risques. Qu'est-ce que c'est qu'un risque? Un risque, c'est la capacité d'écouter le Saint-Esprit quand il te dit « marche dans le vide » alors que tu sais que là, c'est le vide. C'est vraiment le vide. Il te dit « vas-y quand même ». Un jour, quelqu'un, un alpiniste, était sur une falaise. Il y en a qui rient parce qu'ils connaissent la blague. Il était sur une falaise et il trébuche dans le vide. Il se rattrape avec une main. Il est seul au sommet de la falaise, prêt à tomber dans le vide. Et là, il se met à crier, « S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'aider ?» Il crie pendant des heures, « Au secours, que quelqu'un vienne m'aider !» Et là, au bout de plusieurs heures, il entend une voix. Tu as besoin d'aide? Oui, j'ai besoin d'aide. Qui est là? Qui est là? Ok. Qui est là? C'est Dieu. Oui, Dieu, Dieu, aide-moi. Oui, saute dans le vide et je te rattraperai. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour m'aider? Prendre un marché avec le Seigneur, il faut savoir prendre des risques. Si tu veux marcher, si tu veux opérer dans le domaine des affaires, tôt ou tard, tu devras prendre des risques. Parfois, tu traverses des situations, je t'assure, qui sont compliquées. Et le prix à payer, parfois, ne sera pas facile à payer. Il sera lourd. Amen. Toutefois, il est important de ne pas confondre un risque qui en vaut la peine et un risque fou. Parce qu'il y a des risques. Il faut être sage aussi et dire, non, là, le risque est trop élevé, je n'y vais pas. Dans ce monde, les gens qui gagnent plus d'argent que les autres, ce sont les gens qui prennent plus de risques. L'un des gros problèmes du pauvre, c'est qu'il ne prend pas suffisamment de risques. Le pauvre veut tout facile. Le riche, c'est celui qui sait sortir de sa zone de confort et prendre des risques. Les gens qui gagnent le plus d'argent dans le domaine de la finance, on les appelle les traders. Amen. Et les traders, pourquoi est-ce qu'ils gagnent énormément d'argent? Parce que ce sont des gens qui prennent de hauts risques. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait prendre des risques. Dans le monde, on appelle ça risque. Dans le royaume de Dieu, on appelle ça la foi. Parce que tu sais que ce qui compte, c'est ce que je vois par l'esprit devant. Mais par contre, le chemin par lequel je dois passer, il est extrêmement risqué. Mais ce qui compte, c'est la victoire au bout. Amen. Gloire à Dieu. Donc, quel que soit le domaine dans lequel tu es appelé, tu devras prendre des risques. La 13e loi, c'est la loi des opportunités. Dis avec moi les opportunités. Romains 8, 19 dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir, la manifestation des fils de Dieu. Hier, je disais qu'il n'y a pas de meilleur pays aujourd'hui sur la terre que le Gabon. Le Gabon est le pays où il faut être. Le pays où il faut être, ce n'est pas en Occident, aux États-Unis, tout ça. Là où il faut être, c'est au Gabon. Parce qu'au Gabon, il y a énormément d'opportunités d'affaires. C'est pour cela que quand un étranger arrive au Gabon, il dit, oh, mais ces Gabonais, ils ont un problème. Mais c'est génial ici. Pourquoi c'est génial? Parce que tout est à faire. Au Gabon, tu peux commencer un business avec quasi rien et te faire de l'argent. C'est justement parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans le pays qu'il y a beaucoup d'opportunités. Mais pourtant, on entend tous les jours des Gabonais qui disent « Ah, ici, il n'y a rien. » Le problème, c'est que tu es aveugle. Ici, il y a tout à faire. Donc, hier, quelqu'un a posé une question « Comment faire pour avoir une bonne idée ?» Je lui ai dit « C'est pas compliqué, regarde autour de toi. » Et trouve un besoin et apporte la solution pour régler ce problème. Et tu gagneras de l'argent. C'est aussi simple que ça. Amen. Donc, plus il y a de problèmes, et plus il y a des entreprises potentielles en gestation qu'on peut créer. Les opportunités, elles sont partout autour de nous, et beaucoup de gens sont devenus extrêmement riches juste en saisissant une opportunité. Les opportunités, on en a tout le temps dans la vie. Tout le temps, elles viennent à nous, les opportunités, tout le temps. Notre problème, c'est qu'on ne sait pas souvent les saisir quand elles arrivent. Et parfois, il y a des opportunités qu'il ne faut pas rater parce qu'elles se présentent une seule fois. Amen. Et aujourd'hui, Dieu te donne encore l'opportunité de changer. N'oublie jamais une chose. Chaque fois que Dieu t'expose à une parole, chaque fois que Dieu t'expose à une parole, c'est parce qu'il est sur le point de t'emmener à une nouvelle dimension. Et il est en train de te préparer. Il ne faut jamais oublier ça. Amen. La 14e loi, c'est la loi de la vente. Dis avec moi la vente. Celle-là, elle est incontournable. Elle est incontournable. Proverbe 31 au verset 24 nous dit, elle fait des chemises, pour parler de la femme vertueuse, elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. C'est écrit dans la Bible. Hein? Une fois, je suis donné ce séminaire et il y a quelqu'un qui a dit, je ne savais pas que Dieu, c'était un businessman comme ça, parce que vraiment, tout ce qu'on trouve dans la vie au sujet des affaires, je ne m'attendais pas à ça. J'ai dit oui. Voilà pourquoi, en tant que chef d'entreprise et entrepreneur, le livre que je lis le plus, c'est la Bible. Parce que dedans, j'apprends beaucoup de choses par rapport à ce que je veux faire plus tard. Elle les vend. Tout dans la vie passe par la vente. On peut rêver, on peut parler, mais au final, on doit toujours vendre. On peut avoir une belle idée, tu peux ouvrir un magasin, tu peux écrire un livre, tout ce que tu veux. Mais au final, tu devras te bouger et aller vendre. Celui qui est le plus important dans la boîte, c'est celui qui vend. Le commercial. C'est pour ça que le directeur commercial dans une entreprise est quelqu'un de très important, parce que c'est lui qui met en place toute la stratégie de vente. On peut communiquer, tout ça, ça aide. Mais au final, c'est quand il y a la transaction financière que ça compte. Même dans la vie de tous les jours, tu apprends à te vendre. Comment tu te présentes. Même la femme que tu vas courtiser demain, tu devras te vendre. Parce qu'elle va te regarder, elle va dire, j'achète pas pour le moment. Oui, c'est pour cela que une femme dans le royaume, les femmes et les filles, jamais ne vous bradez. Le gars là, il doit galérer. Il doit montrer qu'il est motivé. Jamais tu te vends moins cher, jamais. On n'est pas au marché de Montboîte ici. Il doit faire ça. Et ton papa doit sentir qu'il a fait ça. Et quand il viendra faire poser la dot, il faut qu'il montre qu'il est motivé. Un jour, il y a un monsieur qui voulait épouser une fille. Tout le monde était d'accord, c'était le mariage à la coutume. À Libreville, histoire vraie. Il n'y avait que le papa qui n'était pas sorti de la maison. Il ne voulait pas que le gars la prenne sa fille. Les gens ont pleuré. Les gens ont dit, mais papa, c'est quoi? Donne la fille au monsieur, il a tout fait. Il a dit, je ne donne pas ma fille. Le petit n'a pas suffisamment montré qu'il méritait ma fille. Des heures sont passées. Le jour du mariage à la coutume, il commence à faire tard dans l'après-midi. Le papa dit, je ne sors pas, il ne prend pas ma fille. Et si lui, il ne dit pas oui, ce n'est pas la peine. Le jeune homme a dit à ses parents, ok, je reviens. Il a pris quelques frères à lui. Ils sont partis, ils se sont absentés quasiment pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, on voit arriver dans la cour une grosse voiture, neuve, qui se gare en plein milieu de la cour. La voiture se pose. Le jeune homme descend de la voiture. Il est parti chez un concessionnaire. Il a acheté un gros 4x4 cash à plus de 30 millions de francs CFA. Il a déposé ça dans la cour. Il vient, il rentre dans le salon, il dit, papa, c'est ta voiture, tiens. Le papa regarde la voiture, il dit, petit là, tu es fort. Ah! Il a pris les clés, il est monté. Il s'est tellement bien sorti, de la fille, la prend, 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 prend. Le petit a su comment il fallait faire capituler le papa. Il a su. Il faut savoir te vendre. Il y a quelqu'un à côté de toi, il faut savoir te vendre. Oui. La 15e loi, c'est la loi de la communication. La loi de la communication. Proverbe 10 au verset 20 nous dit, « La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. » Proverbe 18 au verset 21 dit encore, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Tout ce qui se fait dans la vie est soumis au principe de la communication. On communique dans tout ce qu'on fait. Même quand il s'agit de choses spirituelles qui touchent à l'Église, hein, il faut savoir communiquer. Les gens, s'il y a bien des gens qui sont dangereux dans la société, ce sont les gens qui parlent bien. Parce que quelqu'un qui parle bien, il t'endort. Moi, par exemple, j'ai un gros problème avec une société. L'une des sociétés qui fournit Internet sur les téléphones. Et cette société-là, il y a un forfait où elle dit c'est illimité tout le mois. Donc moi, j'ai toujours cru que c'était vraiment illimité. Donc je paye cher, mais avant la fin du mois, je me rends compte que le forfait est fini. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est censé être illimité ou pas? Et finalement, je suis parti regarder là où c'est écrit petit sur le contrat. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas illimité, il y a juste 200 gigas. Et quand tu te mets à regarder des clips musicaux sur YouTube, etc., eh bien, ça consomme beaucoup. Et tu finis ton forfait avant la fin, avant le mois. Mais eux, ils mettent publicité partout, c'est illimité. Ils te font rêver, ils te prennent un des Funzu à Gabon TV qui est là, qui dit, oh, c'est illimité. C'est pas illimité. C'est pas illimité. Parce qu'ils savent comment communiquer pour t'acheter. Amen. Tout ce que tu fais, tu dois apprendre à communiquer. Même ta manière de t'habiller, ta manière de te comporter, elle communique un message. Comment tu te tiens devant les gens, elle communique un message. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, pourquoi quand tu viens à l'église, un jour tu ne viendrais pas avec des baskets, un jean et puis un t-shirt le dimanche? Parce que tout simplement, si un jour je me tiens devant vous en basket, jean, t-shirt, je vous communique un message. Amen. Quand je viens bien habillé, je communique un autre message. Si toi tu es un gigolo qui ne sait pas t'habiller et puis tu vois la femme de ta vie, Dieu dit c'est la femme de ta vie, la femme de ta vie et de ta destinée, tu peux la perdre juste parce que tu es en jean babouche le jour-là. Parce qu'elle va te regarder, elle va dire jamais, jamais je me mets avec un gars comme ça. Gloire à Dieu. C'est important la communication. Tout ce qu'on fait, on doit communiquer. Quand tu crées ton entreprise, les papiers que tu utilises pour donner à tes clients, les flyers à distribuer, tout doit être bien fait. S'il y a bien des gens qui ne savent pas comment communiquer dans notre pays, très souvent, et ça c'est souvent quelque chose qui m'attriste beaucoup, c'est l'église. Regardez souvent les tracts ou bien les affiches que les églises affichent dans les rues. Souvent, ces affiches sont très mal faites. Et ça ne te donne même pas envie d'aller au programme. Tellement c'est mal fait. Alors que nous, justement, qui amenons l'évangile, on doit être de super vendeurs. Je dis, Jésus, c'est un grand vendeur. Jésus, c'est un grand vendeur. C'est pour cela que les gens, les pharisiens, au moment de la crucifixion, ont crié, « C'est un vendeur d'illusions !» Parce que Jésus faisait rêver. Et toi, quand tu vas mettre en place ton business, ton projet, tu dois faire rêver les gens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus suffisamment rêver les gens. Les Gabonais ne rêvent plus. Amen. Dis avec moi la loi de la vente et de la communication. Et de la communication. La 15e loi, on a presque fini. C'est la loi de l'expertise. Dis avec moi l'expertise. Regarde l'homme qui fait bien son métier, Proverbe 22 au verset 29. Regarde l'homme qui fait bien son métier. Il pourra offrir ses services au roi eux-mêmes au lieu de rester un obscur ouvrier. Une autre version dit, regarde l'homme qui est excellent dans son travail. Il pourra offrir des services au roi. Qu'est-ce que Salomon nous dit ici? Salomon nous dit que quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est expert, et c'est le niveau que tu dois atteindre dans tout ce que tu fais. Quelqu'un qui est expert dans son entreprise, on est obligé de l'appeler lui. Les gens sont prêts à payer cher quand le service est bon et excellent. Les gens ne payent pas pour le service qui est médiocre. Il y a beaucoup de Gabonais qui ont ouvert des entreprises à Libreville et même à l'intérieur du pays d'ailleurs et qui ne prospèrent pas parce que leur service est mauvais. Les Gabonais, ce n'est pas un peuple qui est marchand et commerçant comme les Arabes ou les Libanais. Non. Quand tu vas chez les Libanais à Petit Dubaï, regarde comment ils te reçoivent. Bonjour mon frère, comment tu vas mon frère? Ça va mon frère? Vraiment, non. Tu veux ce climatiseur, ce ventilateur-là? Il n'y a pas de problème. Tu veux quoi? On en a plein. Bleu, blanc, rouge, tout ce que tu veux. Hein? Tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Ce que tu veux, il sait que tu as son argent. Il te reçoit bien. Tu as chaud, emmène un verre d'eau pour le monsieur là. Ou même quand tu vas chez les Mauritaniens, tu n'as pas remarqué que même quand tu vas acheter le pack d'eau, à 2940 francs là. Tu n'as pas remarqué que quand tu as une voiture, ce n'est pas toi qui l'emmènes à la voiture, c'est un monsieur qui porte le pack d'eau à ta place. Il l'emmène à la voiture. Si c'était des Gabonais, porte ton pack d'eau. Comment tu arrives? Bonjour madame. Une autre fois, on était au restaurant avec ma femme. Et puis, la dame, elle vient nous donner le menu pour manger. Et elle vient, au lieu de nous tendre le menu, Elle prend le menu au-dessus de nos têtes et puis elle jette ça comme ça, pas sur la table, et puis elle s'en va. On s'est levé, on est parti. Et oui, c'est clair. On s'est levé, on est parti. Ou bien tu es là au restaurant en train de manger. Et puis tu vois là, celle qui fait le service, la serveuse, elle marche et traîne les pieds. Devant vous. Madame, s'il vous plaît, j'arrive. Je fais Jésus. Dis avec moi, il faut que je sois expert dans ce que je fais. Il faut être bon, excellent. Tu dois être le meilleur. Dis à celui qui est près de toi, sois le meilleur. Quel que soit là où tu veux aller, sois le meilleur. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu bien-aimé, pasteur Luc Ondiaz vous dit, soyez les meilleurs. Les jeunes, vous qui êtes en train de finir vos études, soyez les meilleurs. Quand vous êtes à l'école, soyez le meilleur. Si tu n'es pas premier de la classe, sois énervé. Je ne suis pas premier, ça m'énerve. Un japonais. Parce que le japonais, quand il n'est pas premier, il veut se suicider. On lui dit deuxième de la classe. Non, non, il faut être le premier. Dans tout, je suis le premier. Parce que Dieu dit que nous sommes les rois. Le roi, il est le premier. Dans tout. C'est pour ça que Michael Jordan était le meilleur joueur de basket au monde. Parce que Michael Jordan, il n'aimait pas perdre. Il était le premier. C'est pour ça que le Money Times, à la fin, là, quand c'était les dernières secondes, c'est toujours lui qui voulait garder le ballon. Parce que il sait que celui qui va mettre le dernier shoot là, c'est lui qui va être dans à la télévision, mon ami. Et il veut que ce soit lui. Il ne veut pas que ce soit Scottie Pippen ou bien... Non, il veut que ce soit lui. C'est moi le meilleur, c'est moi le patron, c'est moi qui commande ici. C'est comme ça qu'il faut être dans la vie. Il faut être le meilleur. Moi, si Dieu m'a appelé à être pasteur, j'ai dit un jour à Dieu, si tu m'appelles à être pasteur, il n'y a pas de problème. Mais je vais être le meilleur pasteur. Même les messages, quand on écoute les messages de pasteur, lui qu'on dit, les gens vont dire, il y a pasteur, mais il y a pasteur et pasteur. Parce que lui, quand il enseigne, c'est fort. C'est comme ça qu'il faut être. Je suis le meilleur pasteur. Oh, mais tu es orgueilleux, je suis le meilleur. Parce que mon Dieu, la Bible appelle le Dieu excellent. Amen. Dis avec moi, sois le meilleur. Oui. Regarde, dans le premier livre de Rois, au chapitre 7, au verset 13, la Bible dit, il y avait à Tyr un spécialiste du travail du bronze, nommé Hiram. Il était tyrien par son père, mais originaire de la tribu de Nephtali par sa mère, qui était veuve. Il était très habile et intelligent et il connaissait parfaitement la technique du travail du bronze. C'est pourquoi le roi Salomon le fit venir de Tyr pour fabriquer tous les objets dont il avait besoin. Si demain tu es le meilleur dans ce que tu fais, un jour les autorités du pays t'appelleront parce que tu es le meilleur. Dis avec moi, je serai le meilleur. Amen. 17e loi, la loi de l'innovation. Exode 35 au verset 30, on a bientôt fini. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. La loi de l'innovation ou encore la loi de la créativité. Cette loi est une loi puissante. Pourquoi elle est puissante? Parce que tout ce que tu fais dans la vie demande toujours une touche de créativité. Pourquoi Coca-Cola est toujours la boisson la plus vendue au monde? Parce qu'ils ont la touche, ils ont un secret que personne ne connaît. Ce secret, c'est l'innovation. Ils ont innové en leur temps. Ils ont imaginé quelque chose que les autres n'ont pas. Et jusqu'à aujourd'hui, toutes les théories sont arrivées. On a dit toutes les théories, personne ne sait quel est le secret de Coca-Cola. Et toi, quand tu fais quelque chose, il faut que tu te dises, bon, je l'ai fait, ce que j'ai fait, tout le monde peut faire ça. Mais qu'est-ce qui va faire que ça va être différent? Tu dois toujours innover. Les plus grands projets d'investissement aujourd'hui au monde, ce sont les projets dans le domaine de l'innovation, les nouvelles technologies. C'est pour cela qu'aujourd'hui, s'il y a un secteur d'activité vers lequel je recommanderais le plus d'aller, c'est les nouvelles technologies. Parce que c'est le monde de demain. On parle, c'est vrai, il y a l'agriculture, il y a beaucoup de choses, il y a le service, etc. Mais les nouvelles technologies, ça ne blague pas. Parce que c'est le monde de demain. Demain, je ferai un culte. Ici, je ne serai plus là physiquement. Ce sera un hologramme. Moi, je serai assis dans mon salon à la maison. Non, on n'en arrivera quand même pas jusque-là. Amen. Les nouvelles technologies. Si tu es là, tu te dis, je n'ai pas de projet. Je cherche des idées. Tourne-toi vers les nouvelles technologies. Parce que le Gabon, on est à un stade où on a vraiment besoin des nouvelles technologies. Le secteur du e-commerce, par exemple, est extrêmement porteur. Parce que c'est encore vierge. Et les métiers de demain, ce sont les métiers où les gens travailleront de la maison. Il n'y a pas mieux que de travailler de la maison de chez soi. Tu as ton petit short, ton café à côté, devant ton ordinateur, et tu travailles pendant que ton enfant crie. Et tu lui dis tais-toi. Ce sont les métiers de demain où on travaille depuis la maison, au travers des nouvelles technologies. Même quand on fait des réunions de travail, maintenant, on n'a même plus besoin de se voir. On fait tout depuis Skype, WhatsApp, tout ça. Parce que les nouvelles technologies. Celui qui a créé WhatsApp est un jeune garçon qui n'a même pas 40 ans. Il a créé son histoire de WhatsApp là. Et il a été racheté par Facebook. Vous savez à combien ? Il a été racheté récemment par Facebook à 25 milliards de dollars. Oui. Aujourd'hui, WhatsApp appartient à Facebook. 25 milliards de dollars. Le dernier congrès des nouvelles technologies qui a eu lieu en Espagne l'année dernière, c'était la star du congrès. Parce que les gens étaient là, les gens bavaient devant lui, 25 milliards de dollars avec son histoire de WhatsApp là. Donc chaque fois que tu fais un WhatsApp à quelqu'un, sache que le gars qui a créé ça, il a 25 milliards de dollars. Son truc là vaut 25 milliards de dollars plutôt. Ça vaut 25 milliards de dollars et lui, il en a empoché un gros paquet. Amen. L'innovation. La 18e loi, elle est extrêmement importante celle-là. C'est la loi de l'intégrité. Dans le livre de Psaume, chapitre 15, au verset 1 à 2, il est écrit « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, dis avec moi l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. » Quelqu'un me dira « Mais pourquoi la loi de l'intégrité est importante dans le domaine des affaires ?» Parce que l'intégrité, c'est le premier trait de caractère de Dieu. La première chose qui caractérise Dieu, les gens se disent toujours, c'est l'amour. Non. La première chose qui caractérise Dieu, ce n'est pas l'amour, c'est l'intégrité. Parce que Dieu est celui qui ne change pas. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il fait, il le dit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom est saint. Saint, le mot grec derrière veut dire, ton nom est intègre. Tu es intègre. Tu ne changes pas. Genèse chapitre 17, verset 1, Dieu dit à Abraham, Abraham, je suis l'éternel El Shaddai, ton Dieu, sois intègre devant ma face. Il ne lui dit pas, sois rempli d'amour, il dit, sois intègre. Si tu veux aller loin avec Dieu dans la vie, sois quelqu'un d'intègre. Et qu'est-ce que l'intégrité vient faire dans le domaine des affaires? Parce que tout simplement, en chemin, tu vas rencontrer des situations qui vont te pousser à te corrompre. Les gens qui veulent s'intéresser aux affaires vont brasser de l'argent entre leurs mains. Et si tu n'es pas quelqu'un d'intègre, tu vas te perdre. Combien de gens ici sont assis sont à des postes de hauts fonctionnaires, etc. et sont tombés au niveau de l'intégrité. Tu peux tout faire devant les gens, te pavaner avec les gros costards, montrer que tu es quelqu'un d'important. Quand on sait que tu es un voleur et quand tu sais que toi-même tu es un voleur, tu pourras jouer le dur devant tout le monde. Tu ne peux pas te regarder dans une glace le matin. Tu es un voleur. Il y en a qui n'ont pas honte, hein, parce que quelqu'un a dit un jour, le ridicule ne tue pas. Mais il y en a qui n'ont pas honte, c'est vrai. Mais je t'assure, quelqu'un qui sait qu'il a volé, qu'il a fait du mal, je t'assure, la nuit, il ne dort pas. Il ne dort pas. C'est pour cela que, au lieu d'avoir tout l'argent du monde, je préfère avoir la paix. Je préfère bien dormir le soir dans mon lit avec ma femme et être tranquille qu'être bourré d'argent et ne pas avoir la paix. Amen. Ça, il ne faut jamais blaguer avec ça. Parce qu'un jour, le diable viendra te faire des propositions. Parce que quand tu commences à monter avec ton entreprise, le diable, il va te regarder Il va discerner ta destinée et il va vouloir t'acheter. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. L'expérience de Matthieu 4, où le diable demande à Jésus de se prosterner, c'est exactement la même chose qui s'est passée dans le jardin d'Éden avec le premier Adam. C'est pour ça que Jésus est appelé le second Adam. Le premier Adam est arrivé au monde, Satan l'a vu, Satan a fait un deal avec le serpent, pauvre de lui celui-là. Il a pris le serpent et puis il est venu, il a corrompu Adam. Et Adam est tombé et toute l'humanité est tombée dans le péché. Le second Adam arrive, Satan dit, oh, mais est-ce que c'est compliqué? J'ai réussi à avoir le premier, je vais avoir le deuxième. Jésus-Christ confronte avec lui, non, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Dès que Satan dit, regarde la gloire de ce monde, si tu te prosternes devant moi, je te la donne, il dit, arrière de moi. Jamais je m'abaisserai devant toi, Satan. Et ça, quelle que soit la gloire que tu pourras rencontrer sur le chemin de ta destinée, ne te corrompt jamais. Amen. Jamais. Amen. Dis avec moi l'intégrité. La 19e loi, elle est extrêmement importante, c'est la loi du travail. Celle-là, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous savez qu'il faut travailler. Le travail, c'est très important. Proverbe 12, au verset 27, nous dit « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité ou encore le travail. » Et le travail, c'est une bénédiction et un entrepreneur est quelqu'un qui travaille beaucoup. Si tu veux réussir dans la vie, travaille. Le problème que nous avons dans notre pays, le Gabon, c'est que les gens n'aiment pas travailler. Les gens n'aiment pas travailler. On dit le travail commence à 7h30, les gens arrivent à 11h. Il arrive à 11h, à 15h, il est déjà parti. Il est parti pour aller où? S'asseoir à la maison et à rien faire. Et dès que le 20 du mois est arrivé, tu les vois tous en train de faire la queue à la banque et ils nous fatiguent, on ne peut pas venir déposer nos chèques parce que tu vois tout un tas de personnes qui sont là. Et dans toutes ces personnes-là, il y en a beaucoup qui ne travaillent pas. Il dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est le travail. Le paresseux, il ne gagne rien. Il y en a beaucoup qui se sont plaints lorsqu'on a coupé la PIP, c'est ça non? PIP. Mais il y en a beaucoup qui méritent leur PIP parce qu'ils travaillent. Et il y en a d'autres qui ne la méritent pas parce qu'ils ne travaillent pas. Malheureusement, on a mis tout le monde dans le même panier. Mais il y en a qui ne méritent pas cette PIP. Quand tu rentres dans certaines administrations, il y en a qui ne les méritent pas. Parce que quand moi j'arrive dans un ministère et qu'à l'entrée je trouve quelqu'un qui est en train de dormir et qu'on me dit lui il touche 400 000 francs de PIP chaque mois, j'ai dit mon Dieu, c'est de l'argent gaspillé. Alors que d'autres personnes qui travaillent, qui n'ont rien, méritent ça. Amen. Prime d'incitation à la performance et non prime d'incitation à la paresse. Alléluia. Donc il faut aimer travailler. Il faut aimer travailler. L'avant-dernière loi, c'est la loi de la discipline. Demain, tu veux créer une entreprise, tu vas devoir te discipliner dans le travail, te discipliner dans la gestion de ton temps, te discipliner dans tes relations, te discipliner dans la gestion de ton argent, te discipliner. La discipline, c'est une loi puissante. Quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui ira loin dans la vie. La discipline inclut avoir des habitudes tout le temps. Par exemple, la prière, c'est une discipline. Tous les matins, te lever à la même heure et aller prier. Jésus se levait tous les matins à la même heure quand il faisait nuit sombre et il allait prier. C'est une discipline. Faire du sport, c'est une excellente discipline pour maintenir ton corps en forme. Dis avec moi la discipline. Quel que soit le projet que tu veux mettre en place demain, tu vas devoir être quelqu'un de discipliné. S'il y a bien une chose qui est commune chez les gens qui réussissent dans ce monde, c'est des gens qui sont disciplinés. Si tu es quelqu'un qui aime dormir le matin, arrête ça. Parce que Salomon, qui a écrit beaucoup de ses lois, dit que celui qui aime dormir finira pauvre. Si tu veux finir pauvre, dors beaucoup. Et personne ne veut finir pauvre ici. Non. La pauvreté, c'est une mauvaise chose. Si tu veux finir confortable et heureux et prospère, sois quelqu'un de discipliné dans la vie. Aie de bonnes habitudes et non de mauvaises habitudes. Parce qu'il est facile de prendre Une mauvaise habitude est difficile de vivre avec. Par contre, c'est difficile de prendre une bonne habitude, mais c'est facile de vivre avec. Amen. Et à la maison du bâtisseur, on construit des générations d'hommes et de femmes qui sont disciplinés. Amen. Que les jeunes disent avec moi, je suis discipliné. Oui, la discipline. 1 Corinthiens 9, 27 nous dit, je ne l'ai pas noté ici, 1 Corinthiens 9, 27, c'est Paul qui parle, il dit, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je tiens durement mon corps. Je me discipline. » Amen. Et enfin, la dernière, pour moi, c'est la plus importante de toutes les lois qu'on a données. C'est la loi de la prière. Dis avec moi la prière. La loi, l'une des lois d'une extrême importance dans le royaume de Dieu, elle est incontournable, c'est la loi de la prière. Au-delà de tout, elle est la plus importante. La prière, dans Proverbe 3, au verset 5 à 8, il est écrit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Confie-toi au Seigneur. Même si tu es intelligent, même si tu as un bon projet, ça peut ne pas marcher parce que tout simplement, il n'y a pas la faveur divine sur ça. Et on doit chercher la faveur divine dans tout ce qu'on fait. La prière. On doit être des personnes de prière. Les enfants de Dieu gagnent des batailles dans la prière. Les batailles de la vie se gagnent dans la prière. Quand tu te lèves là, il est 5h, 6h, tu es seul dans ta chambre et tu es en train de prier. Tu es en train de mener un combat parce que tu sais que ça se passe là. Tu déclares des paroles. Si tu sais que quelqu'un de ta famille est malade et tu sais que ça c'est une maladie spirituelle, on n'arrive pas à trouver, les médecins n'arrivent pas à le guérir et tu sais qu'il est en train de partir à la mort, tu rentres dans la prière. Et tu dis au nom de Jésus, je viens contre toutes les principautés, toutes les dominations des esprits méchants qui oppressent le corps de mon frère ou de ma sœur. Je viens contre vous au nom de Jésus. Je vous dis de lâcher maintenant. Dans la prière, dis avec moi la prière. Et la prière, ce n'est pas seulement la prière d'action de grâce et les prières de pétition. Il faut aussi savoir combattre dans la prière. Le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'on est mou. On est mou. Et tout comme une femme enceinte qui a un enfant doit pousser le jour de l'accouchement, eh bien, ton projet, il va naître quand tu vas pousser dans la prière. Quand tu sais que tu dois aller signer un contrat super important, tu as tout verrouillé avec tes collègues de travail et tu sais que le contrat, là, c'est bon, il est dans la poche. Il peut arriver un événement en cours de route, tu ne sais pas et le projet tombe à terre. Dis avec moi la prière. Amen. La prière, c'est extrêmement important. Et ma prière, c'est que toutes ces lois, une par une, on les comprenne et qu'on les applique dans la vie. D'ailleurs, si tu veux réussir, prends juste une seule de ces lois et applique-la à ta vie et tu verras la différence. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. On va se lever et on va prier. Je voudrais que tu commences à élever la voix et que tu dises, Seigneur, après avoir entendu toutes ces choses, je prie que tu m'accordes la grâce de comprendre. Je crois que j'ai une destinée avec toi. Je crois que j'ai un appel sur ma vie. Je crois que tu m'appelles à accomplir des choses avec toi. J'ai expérimenté beaucoup de choses jusqu'ici. Et si tu as permis qu'aujourd'hui je sois encore debout, c'est parce que tu as un plan pour ma vie. Alors que certains de mes frères aujourd'hui sont morts et sont partis, certains de mes pères aujourd'hui sont morts et sont partis, moi, tu me permets d'être encore là. Ce n'est pas parce que je suis jeune, non, parce qu'aujourd'hui, même dehors, des jeunes partent.
Mais si Dieu permet qu'on soit encore là et que chaque matin on se lève, on ait le souffle de vie, c'est parce que chaque jour est une opportunité pour changer. Chaque jour est une occasion de plus que Dieu nous donne de changer et d'aller de l'avant avec lui. N'attendons pas d'être le dos au mur pour commencer à changer. Parce que Dieu envoie sa parole. Et quand il envoie sa parole, elle vient pour nous changer. Aujourd'hui, nous nous sommes concentrés sur le domaine de l'entrepreneuriat. Mais chacune de ces lois peut être appliquée à n'importe quel domaine de notre vie. Mais Dieu veut lever des entrepreneurs dans son église. Dieu veut lever des hommes et des femmes qui s'intéressent aux affaires et à l'investissement. Certains ici deviendront des grands chefs d'entreprise, vont s'occuper de plusieurs personnes, vont manager des gens. D'autres auront des participations dans des entreprises. Mais tout cela, tout ceci, c'est pour la gloire de Dieu. D'autres vont trouver anormal que l'on parle de ces choses dans l'église. Mais peu importe, nous en parlerons. Parce que Dieu est en train de se préparer un peuple. Dieu est en train de préparer un transfert de richesses du monde à l'église. Dieu est en train de préparer un peuple d'hommes et de femmes consacrés qui le craignent et qui vont travailler à l'avancement de l'évangile de Christ. Alléluia. Élevons tous la voix et commençons à prier. Dis à Dieu, Seigneur, merci pour l'idée, merci pour le projet, merci pour l'entreprise, merci pour ma vie, merci pour ce que tu as fait dans ma vie jusqu'ici. Et je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu m'accordes la grâce de faire la différence. Tu m'accordes la grâce d'être un instrument entre tes mains.
Ta vie sera différente. différente. Parce que tu as commencé une œuvre nouvelle dans nos vies. Tu as commencé quelque chose de nouveau au Gabon. Merci Père, parce que tu fais de nous des personnes plus que vainqueurs. Merci pour ces deux jours de parole. Merci pour ces deux jours où tu nous as amenés encore dans la révélation de ta parole. Merci parce que nous n'avions pas l'habitude d'entendre ces choses. Mais Seigneur, assurément, elles nous ont fait du bien. Et assurément, elles provoquent un véritable bouleversement dans nos vies. Parce que nous comprenons, Seigneur, qu'avec toi, tant que tu n'as pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, le match n'est pas terminé. Voilà pourquoi, Seigneur, tant qu'il me reste encore un souffle, alors je peux faire la différence. Alors ma vie peut faire la différence. Désormais, Seigneur, dans cette génération, il faudra compter avec nous. Parce que Dieu a commencé une œuvre nouvelle dans nos vies. Merci pour tous les projets, tous les rêves qui repose dans le cœur de tes enfants. Que ces rêves éclorent, que ces rêves voient le jour et que, Seigneur, tes enfants puissent entreprendre, avoir toutes sortes d'investissements parce que tout simplement, l'or et l'argent t'appartiennent et ce que tu mets entre nos mains, c'est pour la cause de l'Évangile. Merci, Père, parce qu'à cause de l'Évangile, tu mettras toutes sortes de trésors entre les mains de tes enfants afin qu'ils les consacrent à l'avancement de ton royaume. Seigneur, merci parce que tu es en train de commencer quelque chose de nouveau dans l'église du Gabon. Merci parce qu'au travers de nous, Seigneur, tu apportes un réveil, un souffle nouveau dans cette nation. Parce que, Seigneur, les jeunes, Seigneur, tu te réserves les jeunes de ce pays. Et tu vas lever, Seigneur, un peuple de jeunes, hommes et femmes, qui feront la différence, des radicaux pour Christ, des personnes qui aiment profondément le Seigneur et qui consacreront leurs richesses et leurs trésors pour Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour les potentiels que tu libères. Merci pour les rêves que tu libères. Merci pour les ministères que tu révèles. Merci pour les appels que tu accomplis. Merci pour les entrepreneurs que tu lèves. Merci pour les leaders que tu suscites. dans le Gabon afin de changer cette nation au nom de Jésus. Honneur et gloire te reviennent. Nous t'avons prié avec action de grâce. Que quelqu'un dise Amen, 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 Amen.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.